si proche. Le magazine des voyages. Les femmes et l'élégance, c'est le fil rouge de notre voyage à Saint-Louis du Sénégal aujourd'hui. Teuss à Saint-Louis est une exclamation pour signifier à quelqu'un justement son élégance. C'est le nom que Maï Diop a choisi pour sa galerie qui se situe au coin de deux rues dans le nord de la vieille ville classée patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est vrai que c'est beau et chic ce qui sort des métiers à tisser de son atelier. Elle se passionne pour une tradition textile commune à la Guinée-Bissau, au Sénégal et au Cap-Vert, le pagne tissé Mandjak. Les Mandjak sont un peuple originaire de Guinée-Bissau, mais aussi installé en Gambie, au Sénégal et au Cap-Vert. Chez les Mandjak, le pagne tissé avec ses décors est une des plus belles expressions de leur culture. Leurs tisserands sont réputés dans toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Maï collectionne donc des pagnes anciens qu'elle déniche et elle fait également tisser des motifs Mandjak qu'elle vend dans sa galerie. En discutant avec elle, ce n'est pas seulement l'histoire d'ornements textiles qu'on découvre, mais un rapport bien plus intense et complexe au pagne tissé.
En Afrique, on appelle pagne toute pièce de tissu. Maintenant, quand on précise pagne tissé, pagne traditionnel, on parle du pagne tissé sur des métiers à tisser en Afrique avec du coton africain.
Il faut quand même dire qu'en Afrique, les métiers à tisser sont étroits, donc c'est forcément un assemblage de bandelettes étroites. Voilà, il y a quand même des règles.
Quand on parle du pagne traditionnel, il est tout le temps en Afrique fait de bandelettes plus ou moins larges, parfois très étroites, comme des galons. Dans notre cas, le métier à tisser produit une bande de 22 cm de large et une fois assemblée, le kit de 6 bandes avec une bordure qui est prévue, avec les franges qui sont prévues pour un panneau final. Pagne, ça veut dire panneau. En fait, ça vient de panos en portugais. Panos en portugais, ça veut dire tableau, ça veut dire panneau, ça veut dire rectangle. Et donc en Afrique, on dit pagne pour signifier cette étoffe qui va être assez polyvalente en fait, parce qu'elle est portée soit en jupe portefeuille, recouverte d'une camisole courte ou d'un grand boubou, mais c'est une élégance que de porter ce pagne. Et c'est une grande valeur, et puis ça maintient les reins, enfin ça a plein de fonctions. C'est en même temps une gaine, c'est en même temps un corset, et en même temps c'est une signification qu'on a des moyens, et qu'on a mis ses plus beaux habits parce que l'occasion le demandait, etc. Voilà, le pagne, il va être sur un enfant pour le protéger des courants d'air, puis des regards jaloux, et puis des remarques, donc il est un peu caché, en même temps soutenu par cette étoffe qui maintient, quoi, une étoffe bien serrée.
La femme prend le pagne pour mettre l'enfant dans son dos?
Oui, l'enfant il est d'abord tenu par une percale qui est munie de liens larges, elle va nouer sur sa poitrine et sous sa poitrine le deuxième, pour maintenir l'enfant fermement collé à son dos. Et ensuite, elle ne le laisse jamais sans un autre ornement qu'elle nouera en deuxième épaisseur sur sa poitrine. Généralement, ce pagne-là ne nécessite qu'un seul nœud en haut, devant.
Il sert aussi au mariage, à la mort, il sert à tous les grands instants de la vie.
Oui, effectivement. Je pense que si on avait l'audace de fouiller les tombes, mais on ne se le permettra jamais parce qu'on respecte les sépultures, on trouverait des milliers de pagnes. Surtout en Casamance et en Guinée-Bissau, où les Mandjak ont leur souche et où ils vivent tous leurs rituels avec les défunts. On enterre des pagnes tout neufs qu'on a épargnés toute une vie pour ce moment-là.
Ça sert de linceul.
Non seulement on enveloppera le défunt avec des linceuls de pagnes, et puis parfois ce sont des bandelettes comme on entourait les momies, mais on garnit sa tombe de quantité de pagnes. Il y a des femmes qui préparent leur mort en épargnant des centaines de pagnes. Il est courant de dire qu'elle les emporte pour les défunts qui n'ont pas pu en avoir avant elle. Bon voilà, elles ont pour mission de transporter cela outre-tombe.
Dans sa galerie de Saint-Louis, ouverte en 2004, Maï Diop vit dans un univers entièrement dédié au textile. Les motifs mandjak sont partout présents. Étoiles stylisées, losanges, triangles, croix, chameaux dorés, crabes, papillons, et puis toutes les formes imaginées par les femmes qui ont fait tisser le pagne. Il y a même des pagnes qui pendent du plafond, un vrai nuage de tissu. Mais là, ce sont des pagnes particuliers au-dessus de nos têtes.
J'avais très envie de présenter des pagnes anciens qui viennent des familles saint-louisiennes, mais ils ne sont pas toujours en bon état. Ils sont là un petit peu comme témoins du temps passé, de la validité de leur présence toujours actuelle. Quelques clients aiment acheter plutôt de l'ancien, même un peu ravaudé. Et je leur présente cet grand éventail, comme vous dites, ce nuage de toile qui m'abrite quand je travaille à la machine.
Tous ces pagnes anciens sont effectivement très sophistiqués et il y a toujours un peu d'or, un peu d'argent, il y a toujours un peu de brillant dans des couleurs très sombres, marron, noir souvent, grenat, et puis quand même cette brillance au milieu de ces couleurs.
Oui, ça c'est le saf. En Afrique, en tout cas au Sénégal où je vis, on aime relever les sauces, relever les plats, relever sa présence d'un bon parfum, plutôt entêtant. Et lorsqu'il s'agit des étoffes, eh bien, on les relève avec du fil brillant. Peut-être que c'est une séduction opérée par les trafics d'étoffes depuis très très longtemps venant d'Arabie. On va le dire comme ça.
Alors vous les trouvez où ces pagnes anciens ?
Alors j'ai commencé à m'y intéresser et à trouver sur le marché des femmes qui revendent de la fripe sénégalaise, on va dire. Soit des vieux boubous de femmes, des caftans d'hommes. Puis, entre autres, j'ai trouvé quelquefois des pagnes. Des pagnes qui, je n'avais pas encore la notion de la valeur qu'ils avaient. Malheureusement, j'ai revendu des choses que je regrette beaucoup d'avoir quittées, mais enfin bon, elles circulent dans les mains de mes clients. Et ensuite, j'ai eu moins le temps de chiner sur les marchés et j'ai des complices qui me fournissent des pagnes de deuxième main. Parfois, ce sont des trésors gardés depuis très très longtemps par des mamans parce que elles l'ont tenu de leur grand-mère, et puis il y a toute une histoire, et puis c'est des produits qui ont un peu perdu de leur qualité actuellement. Depuis la dévaluation, je pense qu'on peut dire ça, les tisserands ont tissé plus vite, plus grossièrement, et cette qualité des pagnes du temps passé a disparu. Nous, à l'atelier Tuss, on essaye de garder cette qualité d'avant la dévaluation. C'est une affaire de trésorerie, hein, tout simplement. Il faut payer un peu mieux les gens qui travaillent plus lentement, etc. Mais à part ça, ils ont la technologie, ils ont la patience, ils ont le goût du travail parfait, donc il n'y a pas de problème.
Mais c'est important d'avoir, ce fonds de collection de tissus anciens et pas faire simplement de la création.
Oui, alors ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce que je veux bien vendre aux touristes, aux voyageurs. Maintenant, les plus beaux pagnes de la tradition mandjak que je détiens, je les ai exposés à Dakar. Mais ce fond-là, il est caché. Parce que justement, comme j'avais vendu de très belles pièces, que je les regrettais, ensuite j'ai fait un effort pour épargner. Comme les femmes sénégalaises le font d'ailleurs, elles épargnent avec des pagnes tissées.
C'est un fonds d'épargne, ça a une valeur comme l'or. On sait aussi souvent qu'en Afrique, le bijou sert d'épargne. Le pagne aussi.
Exactement. Alors, au point que tant qu'il est en rouleau, sorti du métier à tisser, il est un kit parfait pour monter un pagne qui va faire 1m25 sur 1m90. Mais tant qu'il n'est pas cousu bande contre bande pour réaliser cette pièce composite, il reste une monnaie, il reste une valeur que l'on peut échanger. Avant les colons et même pendant la colonisation, les Portugais d'ailleurs l'ont su très tôt, c'est que les échanges se faisaient avec des monnaies pagnes, comme avec des monnaies or, comme vous dites. Oui. Et encore actuellement, il y a des vestiges de cela. Une femme, si elle peut avoir un tisserand pendant un mois, elle va lui faire faire des pagnes à l'avance pour les mariages, les baptêmes à venir, avec son statut de mère de famille. Elle se doit d'offrir des pagnes. Donc elle va en faire tisser et puis elle va garder une partie qui est son petit magot. et qui va la rassurer, parce qu'en moment de difficulté, un accident, une maladie, elle va savoir qu'elle a toujours ses valeurs, qu'elle pourra toujours négocier. Maintenant, quand le panier est monté, c'est fini. Il est passé de la valeur d'échange aux vêtements, c'est-à-dire vêtements toujours riches, vêtements qui montrent son rang social. C'est aussi une protection, parce qu'on se protège beaucoup en Afrique, on a peur de la rivalité, de la jalousie et de beaucoup de choses. Il va protéger l'enfant de tous les malheurs qui guettent, quoi. Donc il est devenu beaucoup d'autres choses, mais il n'est plus une monnaie.
Le Metropolitan Museum de New York et des collectionneurs de Londres et de Toronto ont entre autres acheté des pièces anciennes à Amaï Diop. Depuis qu'elle vit en Afrique, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, sa vie tourne autour de la passion qu'elle entretient depuis très jeune pour le tissage et les textiles.
Depuis très jeune, j'étais fascinée non pas seulement par les tissus, il y en avait pas mal dans les armoires de ma maman parce qu'elle avait travaillé un temps dans le textile et puis après avoir fermé leur entreprise, les stocks étaient à notre disposition pour se faire plein de choses, des chemises de nuit, des jupons, des choses affriolantes.
C'était
à Annecy, en Haute-Savoie. Voilà. Et puis j'étais fascinée aussi par l'outillage. Jusqu'aux épingles à boules multicolores, j'étais fascinée. Les ciseaux qui coupent bien, les crochets, les pointeaux, tous ces outils. Bon, après, j'ai été orientée sur un stage de tissage parce qu'il y avait un outil à la maison. J'ai appris le tissage à 16 ans et puis je me suis régalée. Je me suis fait toute une identité autour de ma fonction de tisserand, en fait. Et j'ai offert des choses qui plaisaient beaucoup. J'ai décoré ma maison, j'ai habillé mes enfants. Ensuite, j'ai habillé les enfants des autres. J'en ai fait un métier. Ensuite, j'ai travaillé dans le cinéma, en déco. J'étais plus du tout tisserand, ni couturière, ni rien du tout. Mais j'avais cet esprit de plasticienne qui marchait très, très bien en déco. Et puis, voilà, je suis venue en Afrique pour peindre parce que je me sentais une envie d'être peintre. Et puis j'ai vite compris que je me prenais la tête, que c'était pas fait pour moi. Et je suis revenue à l'artisanat avec bonheur. Je ne tisse plus beaucoup, je fais tisser, mais voilà, je suis dans mon monde. Et puis la clientèle aime beaucoup rencontrer l'étoffe traditionnelle. J'avais beaucoup d'amis qui voyageaient, qui ramenaient du Pérou, du Guatemala, des étoffes. C'était un témoignage tellement hallucinant d'une autre culture. Que moi j'ai trouvé ça opportun et certainement viable quoi, de proposer l'étoffe traditionnelle sénégalaise, sachant que le bogolan est reconnu, que les kente, etc., les indigos sont des valeurs au niveau de la déco. Je me disais que forcément le pagne manjac, très mal connu, très mal aimé peut-être à cause de trop de brillance, etc., par les occidentaux, aurait sa chance. D'autres l'ont déjà testé à Dakar, hein, mais en le déclinant plus en métrage pour l'ameublement, pour en changeant des données techniques aussi pour sortir de la petite bandelette. Donc moi, mon identité, c'est de conserver toutes ces spécificités et puis de jouer. Bon, ben, on met pas de brillant, il y en a pas toujours eu, c'est pas obligatoire. Ma clientèle aime mieux. À la limite, la soie peut-être, mais pas l'urex, sauf exception.
C'est quoi l'urex ?
L'urex, c'est les fils d'argent, les fils d'or qui sont importés de Chine, mais qui viennent d'Orient à l'origine.
Oh,
Sur RFI, on vient de faire un petit tour par le Mali avec Amadou et Mariam et on revient à Saint-Louis du Sénégal avec une toute autre musique. Elle est belle aussi, non? C'est celle du métier à tisser. À deux pas de la galerie Tuss de Maï Diop, que je vous fais découvrir aujourd'hui, il y a une cour où travaillent les tisserands qu'elle emploie, dont Hassan. C'est là que sont tissés sur de longs et étroits métiers les pagnes au motif mandjac que Maï s'emploie à faire connaître et à valoriser. Chaque tisserand travaille avec un assistant et c'est un balai bien réglé.
Oui, on travaille ensemble. Je suis son apprenti. C'est moi qui organise les couleurs là. Si je fais une erreur, ça va signaler là-bas. Et lui, il est obligé de me dire dans la vie. Et on recommence en zéro. Si on fait une erreur, le motif là ne va pas aller ensemble avec les autres.
Et ça va à toute vitesse. Hein.
Et ils doivent bien se coordonner. En fait, c'est un métier qui travaille à deux têtes, deux pieds et quatre mains. Voilà les objets qui me fascinaient quand j'étais petite. Dévidoirs, bobinoirs. Voilà, on voit donc l'assistant qui va manipuler. C'est comme une grande marionnette. Il y a tout un tas de bâtonnets là qui sont installés pour sélectionner des nappes de fil. Donc le motif, il va évoluer. Vous voyez, le motif est en descente là-bas. On le voit dans son endroit. Le motif va évoluer rang par rang. Grâce à l'action de monsieur l'assistant, qui manipule donc la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à peut-être 25 ou 30 baguettes de motifs pour faire les ornements du pagne. On le croirait brodé, mais il est tissé. Même dispositif ici.
Je peux venir discuter avec vous deux minutes, Hassan ? Vous m'expliquez ? Je vais passer par-dessus les fils. Hop, parce qu'alors il y en a. C'est très long, ça va jusqu'à la rue. Il y a au moins une dizaine de mètres de fil tendu et vous êtes vous de l'autre côté.
Oui. Actuellement, je prépare un motif du Cap Vert. Ouais. Donc, je prépare à partir des baguettes, quoi. Voilà.
La préparation est très longue.
Oui, oui, oui. Ça demande une journée, hein. Parce que c'est tellement compliqué, tellement sophistiqué. Ouais.
Depuis quand vous êtes tisserand, vous ?
Moi, je suis tisserand depuis l'âge de 14-15 ans, quoi. Vers les années 86, comme ça, quoi.
Et votre famille est une famille de tisserands ?
Non, 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 non. Moi, je suis dans une famille de couleurs qui n'aime même pas ça. Et donc, je suis venu ici par amour. Amour du travail.
Mais qu'est-ce qui vous plaît ?
Tout, hein, ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 7-8 ans, il y avait beaucoup de tisserands à Saint-Louis. Bon, il y avait des mères sénégalaises qui embauchaient des mandjacs avec leur métier. Donc, ils étaient au bout de la rue. Mais lorsque je descendais, je voyais les tac-tac-tac.
Vous voyez les tac-tac-tac. C'est le bruit des tisserands.
Oui, les tac-tac-tac. Oui, les peignes. Et puis, je m'intéressais beaucoup, quoi. À chaque fois, je venais pour les voir. Donc, j'aimais bien cette vie, quoi. Ouais, c'est pourquoi je suis tombé dedans.
Donc c'était évident que vous alliez en faire votre métier.
Oui, 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 oui. Mais ma famille, bon, n'aimait pas que je fasse ça. Parce qu'ils disaient que ce n'est pas un métier noble. Parce que ça, il y a une caste quoi qui fait ça. Mais moi, comme je suis un peu noble, entre guillemets, on est d'une famille de marabouts, donc il n'est pas question que j'ai fait ce métier-là. Parce que les parents trouvent ce métier tellement terre à terre. Ouais. Alors que moi, je pense autre chose, quoi. Ouais. Il y avait ma mère qui ne m'adressait même pas la parole. Il y avait les voisins qui me regardaient comme ça. Ouais, parce qu'on n'a jamais vu ici hein, un Wolof qui fait ça. Ou bien tout couleur.
Et aujourd'hui, votre famille, elle vous parle ?
Oui, 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 oui. Parce qu'on m'a vu à la télé, je commence à avoir beaucoup d'horreurs. Les gens commencent à dire, ah, mais oui. Pourtant, il avait bien choisi le droit chemin.
Oui. Mais ça a été dur au départ.
Oui, très dur, très dur.
On attache beaucoup d'importance à leur production, à leur technologie, à leurs outils. Par exemple, une femme vient, il arrive quoi, qu'elle vienne demander au tisserand une de ses bobines. Elle va le cacher dans son soutien-gorge, cet objet. Et c'est une croyance, comme pour réparer un fil cassé dans le mariage. Elle espère, on lui a dit que cette amulette serait bénéfique pour renouer les liens avec son époux. Alors, on attache beaucoup d'importance à sa production, à son outillage, mais par contre, aucun parent saint-louisien ne voudrait voir son fils aller vers cette profession-là. C'est une profession d'homme, mais c'est une profession encore dans l'esprit, encore castée. Castée, ben, ça veut dire que si tu es né dans une famille qui a cette fonction-là, tu vas avoir le droit et tu seras presque obligé de la remplir. Mais si tu n'es pas né dans une famille de tisserands, tu ne vas pas aller vers. C'est dévalorisant, ça ne peut pas se justifier. Puis on n'a pas l'habitude d'innover tellement dans les sociétés africaines. Peut-être je généralise trop, mais je pense que je peux le dire. Innover est très, très audacieux. Pour moi, ce sera vraiment la réussite quand on pourra montrer le tisserand aussi bien que le tissage.
Maï voyage aussi pour mieux connaître et défendre sa passion pour les pagnes tissés mandjak. Elle est donc allée en Guinée-Bissau, aux origines de cette culture, là où elle est encore très vivante. Dans sa galerie et dans les pagnes qu'elle fait tisser aujourd'hui, elle explore aussi toute la sphère de création mandjak et reprend des motifs imaginés par exemple au Cap-Vert par les Portugais. Ils n'ont pas hésité dès le XVIe siècle à se servir des pagnes comme monnaie d'échange. Ils ont laissé au mandjak des motifs inspirés par leur propre culture portugaise. Car les motifs mandjak sont très métissés, comme les signards finalement dont on parlait au début de l'émission. Ce sont elles qui ont d'ailleurs fait venir des tisserands mandjak à Saint-Louis il y a environ 2 siècles. Elles ont aussi laissé leurs traces dans ce patrimoine textile.
En fait, c'est les femmes qui commandent, qui vont orienter la tendance. Le tisserand est une proposition. Il voyage avec des tas d'échantillons en rouleau avec lui. Sur ces échantillons, les femmes vont choisir ou bien même improviser quelque chose de nouveau. Mais disons que leur patrimoine est toujours modifié, enrichi par leurs clientes. Les signards, elles avaient besoin de pagnes richement ornées. Elles avaient beaucoup d'étoffes qui leur étaient offertes par leurs hommes, qui leur ramenaient de Paris ou d'ailleurs de très belles soieries. Mais parfois, elles aimaient bien donner un modèle de soierie à tisser, enfin comme à reproduire par les tisserands. C'est comme ça aussi que les broderies au point de croix sont devenues des motifs de tissage aussi, parce qu'elles étaient formées chez les bonnes sœurs, qui leur apprenaient tous ces travaux d'aiguille. Il y a des motifs qu'on dit mandjak, mais qui viennent des grilles de travaux d'aiguille.
De notre vieille Europe.
De notre vieille Europe, exactement. Voilà, donc c'est tout un melting pot de tendances, d'influences, en fait une cristallisation de tout le passé, en fait métissé, mélangé, brutalement, mais dans le tissage, c'est pas brutal. Il y a une espèce de jouissance de se voir mélangé d'influences.
Si vous passez par Saint-Louis, allez visiter la galerie Tuss et prenez un peu de temps pour rencontrer Maï Diop. Avant cela, rendez-lui visite sur le web, son adresse, toute simple, Tuss. Alors ça s'écrit T-E-3-S, T-E-3-S, Tuss.net. Maï se lance aussi dans une nouvelle aventure, celle du CAMÉ. Comprenez derrière l'acronyme le Conservatoire des Arts et Métiers de l'Élégance. Nous venons de passer presque une heure à parler du chic de la Saint-Louisienne. Normal qu'une telle structure soit basée à Saint-Louis. Le Conservatoire souhaite mêler patrimoine, enjeux sociaux, culture et création pour défendre textiles traditionnels, parures, coiffures, bijoux, bref, tout ce qui fait l'élégance en Afrique de l'Ouest. L'association a été créée en mars et Maï souhaiterait que son projet devienne réalité à la fin de l'année. Olga Samsonov et Ludovic Dunod, on vous retrouve désormais la semaine prochaine pour un autre voyage. Salut à tous.